a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à toutes et à tous, Nathalie Barge pour vous accompagner dans votre émission hebdomadaire L'Amérique et vous. C'est les primaires démocrates ici aux États-Unis, 5 jours avant le Super Tuesday du 3 mars, où en sont les 7 principaux candidats à l'investiture démocrate pour la Maison Blanche et comment se déroulent ces primaires avec les campagnes et les caucus. Ces primaires dans lesquelles s'affrontent le démocrate socialiste Bernie Sanders, qui est jusqu'ici le favori au plan national, l'ancien vice-président Joe Biden, l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, le philanthrope Tom Steyer et le plus jeune candidat Pete Buttigieg, âgé de 38 ans. Alors ici, à Washington, nous avons en ligne Khadidia Viviane Doumbia comme invitée, qui est originaire de Côte d'Ivoire et qui est membre du comité directeur de l'Alliance des femmes pour la démocratie et la justice. Bonsoir Khadidia, comment allez-vous ?
Je vais très bien, Nathalie. Comment allez-vous?
Merci beaucoup, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Nous avons également à Silver Spring, dans le Maryland, Maître Joseph Fa, qui est originaire du Cameroun, qui est expert en contentieux civil, mais qui suit de très près la politique américaine. Bonsoir, Monsieur Fa, comment allez-vous?
Bonsoir Nathalie, bonsoir aux auditeurs.
Merci beaucoup également d'être avec nous. Alors l'on sait que lors du super mardi le 3 mars, 14 primaires d'État auront lieu, 1344 délégués promis, c'est 33,8% du total national. Et c'est donc le jour, je le dis pour les auditeurs, où le plus grand nombre d'États américains organisent des élections primaires et des caucus. Donc on s'attend à plus de délégués aux conventions de nomination présidentielle. Et donc les primaires et caucus du super mardi représentent en quelque sorte le premier test d'éligibilité nationale d'un candidat à la présidence. Alors ainsi, les candidats doivent bien réussir ce jour-là, sachant que les victoires convaincantes lors du super mardi ont généralement propulsé les candidats à la nomination de leur parti. C'est donc un moment décisif. Je cite rapidement les 14 États en question: Alabama, Arkansas, Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont et la Virginie. Et alors, les candidats à l'investiture du Parti démocrate ont pris part à un débat télévisé mardi à Charleston, en Caroline du Sud. Bernie Sanders a été pris pour cible par ses rivaux lors de ce débat. Et le scrutin dans cet État a lieu samedi, 4 jours avant le Super Tuesday. Alors, que retenir dans un premier temps de ce dernier débat avant le Super Tuesday pour la suite des événements? Une question que je poserai en premier lieu à Khadidia Doumbia.
Alors, écoutez, ce dernier débat a été un désastre parce que les différents candidats ne faisaient que s'attaquer. Ça a été pénible à suivre et les modérateurs aussi ne s'en sortaient pas. Et bien évidemment, Bernie Sanders, qui est à la tête pour le moment, a été la cible de tous les autres candidats. Donc, pour moi, cela signifie que pour le moment, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui ressort réellement pour être le prochain candidat. Nous le saurons, bien sûr, mardi prochain. Voilà.
Joseph, qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre côté, de ce fameux débat?
Bien, comme ma sœur l'a dit, le débat n'était pas un débat ordinaire, si vous l'avez suivi. C'est une cacophonie sur la scène. Et je pense que ce genre d'action ne peut qu'encourager les électeurs à voter pour M. Donald Trump en novembre prochain, parce que ça signifie que les candidats ne sont pas préparés, franchement, pour livrer un menu que le peuple américain trouvera digestif. Surtout, il n'y a aucun programme qui est en train d'être élaboré. Il y a plus des attaques collatéraux sur des confrères, alors qu'on a tous le même problème, c'est-à-dire montrer un programme politique qui va justifier que le Parti démocrate a la possibilité de changer la vie des citoyens américains. Mais ce n'est pas l'impression que c'est le cas jusqu'ici.
Alors, Madame Doumbia, on a donc 7 candidats démocrates en lice en ce moment. Que pensez-vous de l'entrée tardive de Bloomberg, de Michael Bloomberg, donc fin novembre? Est-ce que cela est une stratégie de sa part, selon lui ou autre?
Écoutez, d'abord, pour commencer, Bloomberg était au Parti républicain. Il s'est réinscrit au Parti démocratique en octobre 2018. Deuxièmement, il est entré dans la campagne très tard et le DNC a vraiment tordu les règles pour pouvoir le faire entrer, ce qui n'est absolument pas correct. Pas correct pour les partisans du parti et pas correct pour les candidats qui avaient déjà commencé leur campagne. Son entrée, bon, il met beaucoup d'argent pour sa campagne, c'est sûr, il en a les moyens, mais il a quand même des casseroles hein, qui le suivent, avec le stop and frisk qu'il avait implémenté lorsqu'il était maire de New York, qui était vraiment une loi qu'on considère vraiment contre les communautés de couleur. C'était pour contrôler soi-disant les armes. Il a quand même pas un bilan si positif. Il compte surtout sur son argent. Je pense que c'est surtout parce que le parti croit que Bernie Sanders, comme Elizabeth Warren d'ailleurs, sont beaucoup trop à gauche et risquent de faire fuir les candidats, mais ce n'est pas prouvé. Donc il y a des problèmes quand même au niveau du parti aussi, parce que cette entrée tardive en forçant sur les règles n'est pas juste et a été mal prise par les partisans du parti.
Monsieur Fah, puisqu'on y est, hein, on peut faire rapidement une petite impression sur chaque candidat. Le cas Bloomberg, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici? Comment se débrouille-t-il?
Nous savons que Bloomberg, en dehors de ses ressources financières, nous n'avons pas l'impression qu'il est préparé pour être président des États-Unis. Si vous ne me croyez pas, faites un flashback et revisitez sa performance dans son tout premier débat. C'était peut-être une catastrophe, pour dire le moins. Et entrer dans les élections si tardivement et flasher de l'argent pour acheter des espaces publicitaires et essayer de corrompre ou alors de faire comprendre aux électeurs que parce que vous êtes financièrement équilibré, vous pouvez mieux diriger l'Amérique, je ne pense pas que c'est comme ça que cela marche. Ceux qui étaient sur le terrain dès le début, je pense à Klobuchar, je pense à Wine, je pense à Sanders, qui font de la campagne de porte à porte dès le début, sont mieux familiarisés avec les électeurs que nous sommes. Et quand quelqu'un vient, il ne fait pas du porte à porte, il n'a pas un programme politique clair en dehors d'acheter des espaces publicitaires dans un État. Il dépense 130 millions de dollars pour les publicités, mais qu'est-ce que vous êtes en train de préparer aux gens concrètement comme plan politique? Donc moi, je trouve que M. Bloomberg, son entrée tardive, au-delà de ses finances, ne le place pas comme candidat idéal pour les Américains. Et même si jamais il est favori dans certains États, c'est simplement parce que les gens comme Sanders ou Warren ont une position par rapport à certains nombres de milliardaires que l'Amérique n'est pas en train d'aimer. C'est pour ça que peut-être vous allez voir dans certains sondages, Bloomberg vient en troisième position et tout ça. Peut-être comme en regardant en Caroline du Sud.
Alors justement, Monsieur Fah et Madame Doumbia, puisque vous avez entamé la question financière, hein, la question financière de la campagne des primaires, vous avez parlé de Michael Bloomberg, qui n'est pas le seul milliardaire du reste. On a Tom Steyer aussi, qui est milliardaire, et puis bon, Donald Trump, hein, côté républicain. On savait que Kamala Kamala Harris avait abandonné en décembre faute de manque de fonds financiers justement. Amy Klobuchar, elle peine dans les sondages et elle a un problème de financement aussi. Elle risque d'abandonner sous peu. Alors le rôle de l'argent dans cette campagne, hein, au niveau de l'autofinance et de la démocratie. Déjà je me demande pourquoi on n'a pas de femmes milliardaires qui se présentent. Elles existent aux États-Unis. On a Alice Walton, Jacqueline Mars, Lorraine Powell Jobs, Abigail Johnson, etc. Donc la question de l'argent dans cette campagne, comment la perçoivent peut-être les Américains, cette question-là? Je poserai la question à Doumbia.
Oui. Alors, écoutez, la population est concernée et bien évidemment sait que l'argent est très important. Le problème, c'est que nous sommes arrivés à un stade maintenant dans les différentes campagnes où l'argent est 50% de la campagne et peut permettre à une personne de gagner. D'ailleurs, nous l'avons vu avec Donald Trump. Donc, c'est quand même un concern parce que si c'est le cas, et c'est le cas, cela veut dire que les candidats les plus honnêtes qui ont le moins d'argent n'iront jamais jusqu'au bout. Et ce n'est pas très, très correct pour la population, mais c'est la réalité sur le terrain. Concernant Bloomberg, comme l'a dit M. Farr, on se demande enfin pourquoi il est entré même dans cette campagne.
Oui.
Parce qu'il ne s'approche pas des gens, il fait que de la publicité. Donc bon, voilà quoi.
Alors on revient sur le cas californien. On sait que la Californie progressiste va peser lourd un mardi lors de la primaire démocrate pour choisir le candidat qui affrontera Donald Trump en novembre. Et en 2016, l'État le plus peuplé donc avait organisé cette primaire en juin. Et cette année, elle a avancé le scrutin au 3 mars pour le Super Tuesday. Et les inscriptions sur les listes électorales ont atteint un record depuis les années 50, hein, soit plus de 20 millions sur 25 potentiels, et ça représente 44% des inscrits. Donc 44% des inscrits sont des démocrates déclarés, presque le double de l'électorat républicain qui est à peu près à 23%. Alors, Monsieur Fay, est-ce que le vote californien pourrait faire la différence selon vous?
Bah écoutez, je ne pense pas que la Californie, elle tout seule, peut déterminer qui va être le candidat des démocrates aux prochaines élections de novembre. Je reconnais que la Californie, elle tout seule, a 416 délégués pour les démocrates. Ça, c'est énorme. Je pense que ça, c'est le plus grand nombre de délégués qu'on a sur le plan national. Remporter la Californie, c'est un pas vers la nomination pour le candidat des démocrates, mais si vous faites la différence par rapport à ce qui reste des autres 49 États des États-Unis, ce n'est pas assez. Donc, le tout n'est pas de gagner la Californie, il suffit de gagner tous les autres États pour pouvoir être, à mon avis, pour avoir assez de chances pour avoir la nomination pour le candidat des démocrates aux élections de novembre 2020.
Alors, il y a eu des sondages en Californie, hein, de l'Institut Schwarzenegger, hein, qui mettent en première place la question du logement et des sans-abri, qui sont nombreux, hein, sur la côte ouest. Le changement, hein, en deuxième position, le changement climatique, suivi de l'immigration, et en quatrième place est arrivé Donald Trump. Alors, il faut en effet quelqu'un qui puisse tenir tête à Donald Trump, ce qui n'est pas des plus simples. Madame Doumbia, quelles sont selon vous les qualités requises pour faire face à Donald Trump?
Écoutez, pendant longtemps, on a pensé que Joe Biden pouvait le faire parce qu'il est aussi agressif que Donald Trump. Malheureusement, il a fait quelques erreurs dans sa campagne. Il faut quelqu'un, Kamala Harris aussi est sortie, elle était suffisamment agressive parce qu'il faut une personne qui puisse lui répondre du tac au tac et qui ait le même tempérament fougueux. Le problème dans le Parti démocratique, c'est que les gens veulent toujours se présenter comme très polis, font attention à ce qu'ils disent, mais lorsque vous avez un adversaire en face de vous, il faut savoir aussi lui répondre comme il vous parle. Donc là, au jour d'aujourd'hui, Bernie Sanders est un bon candidat, mais il pourrait peut-être à sa manière, mais on ne sait pas encore. Biden, bon, il est un peu à la traîne malheureusement, donc on n'est pas très sûr. Les autres ne sont pas, à mon avis, et c'est personnel, suffisamment fougueux pour être en face de Donald Trump et de lui répondre comme il mérite d'être répondu.
Alors, les enquêtes récentes en Californie placent tout en tête des intentions de vote. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, autour de 30%, hein, avec une nette avance sur Joe Biden et Elizabeth Warren, qui sont au coude à coude. Mais il y a les indécis. Donc, comme vous l'avez dit, on peut pas tout deviner, tout prévoir. On a un système de vote à la proportionnelle, avec un seuil d'élimination en deçà de 15% des voix. Donc, ça veut dire que la compétition entre candidats est très serré. Monsieur Fa, quels sont, selon vous, les autres États à suivre de près pour la prise en compte d'un tableau d'ensemble du Super Tuesday dont vous avez parlé tout à l'heure, justement, ce fameux tableau d'ensemble?
Je ne vous ai pas bien suivi, Nathalie. Si
oui, alors en fait, je vous demandais, selon vous, quels sont les autres États à suivre de près pour la prise en compte d'un tableau d'ensemble du Super Tuesday?
Moi, je pense qu'il faut suivre de près Sanders. Nous avons également à suivre de près Warren et finalement Pete Buttigieg. Je suis d'accord que les sondages sont en train de montrer M. Biden comme favori pour la Caroline du Sud qui aura lieu demain. Mais par rapport à mardi, je pense que ça, c'est l'opinion des médias américains, qui n'est pas forcément l'opinion du peuple américain et qui certainement essaye de canaliser l'opinion du peuple dans une certaine direction. Mais si vous, individuellement, vous parlez aux électeurs et vous regardez ceux-là qui ont un programme politique plus proche des électeurs, je pense qu'il s'agit premièrement de Sanders et de Warren, à mon avis, et plus proche d'eux, on a Pete Buttigieg.
Madame Doumbia, ces candidats, selon vous, sont-ils réellement focalisés sur les principaux enjeux de la présidentielle aux États-Unis ou sont-ils plus affairés à se livrer bataille sans merci? Vous en avez déjà donné un exemple tout à l'heure en début d'émission.
Écoutez, ils sont focalisés sur la présidentielle. Mais cette bataille qui n'était pas très jolie à voir communique juste un message, c'est-à-dire que chacun d'entre eux se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les différents débats, à part Sanders, personne n'émerge réellement. Donc il y a une certaine frivolité,
oui.
Voilà, nervosité qui s'installe et donc ils risquent de perdre leur focus au lieu de, comme disait M. Fa, de nous présenter leur programme parce que c'est ce que nous voulons entendre. Donc il y a une certaine frilosité qui s'installe et j'espère que demain ils ne feront pas la même chose, sinon ce sera vraiment une catastrophe pour le parti.
Monsieur Fa, semble-t-il avoir, selon vous, une stratégie pour soutenir un candidat quand il sort de la course, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut sentir en ce moment ou pas?
On sent rien en ce moment. Hein. on ne sent rien, à part Sanders qui est un peu remonté. Pour le moment, aucun des candidats vraiment ne convainc beaucoup. Donc le débat de mardi était catastrophique parce que c'était l'opportunité manquée pour pouvoir présenter quelque chose de constructif à la population.
Alors vous avez déjà tous les deux bien parlé de Bernie Sanders, mais peut-être encore une dernière question sur Bernie Sanders à Monsieur Fa. Bernie Sanders qui a 78 ans, donc qui est sénateur indépendant du Vermont, il est en tête donc des sondages nationaux avec 29% des intentions de vote. Alors il monte, est-ce qu'il peut selon vous redescendre dans les sondages et que nous enseigne d'autre part le fait que les jeunes aiment beaucoup Bernie Sanders?
Ben, écoutez, pour l'instant, rien n'est gagné, Nathalie. Nous n'avons jusqu'ici que 3 États qui ont déjà fait les élections pour les délégués. Et nous avons la Caroline du Sud qui sera demain. Et on a Super Tuesday où il y a beaucoup d'États qui vont participer dans Super Tuesday. Je pense à Vermont, je pense à Virginie. Vermont qui a 16 délégués. Et vous restez rassurés que ce sera le 3 mars. Vermont, c'est déjà remporté d'office par M. Sanders. Redescendons dans la Californie où nous parlions dès le début de cette émission de la plus grande concentration, le plus grand nombre de délégués, 416. Et je pense très simplement que par rapport au programme politique sur l'habitat, sur la réinsertion des immigrants et même le plan d'immigration de M. Sanders, il est possible qu'il remporte la majorité des voix dans la Californie, parce que si vous connaissez la démographie de la Californie, il y a beaucoup d'hispaniques, des hispanos là-dedans, il y a beaucoup d'immigrants en Californie, et c'est vous les démocrates. Donc, par rapport à son programme politique, par rapport à son programme d'immigration, par rapport à son programme économique, il est plus proche des immigrants. Sanders et Warren sont plus proches des immigrants. Donc moi, je pense que sa montée dans les sondages va continuer. S'il continue dans sa campagne, ce que je trouve, par contre, qui peut être un problème pour la campagne de M. Sanders, c'est son état de santé. Donc s'il continue à se maintenir dans la même mouvance, s'il continue à garder le même état de santé, je pense qu'on ne serait pas surpris de le voir être le candidat des démocrates aux prochaines élections. Et si c'est le candidat des démocrates, puisque lui, il défie la majorité des médias et bénéficie de la confiance absolue des individuels qui partent aux unes, avec le nombre des délégués et les citoyens américains individuellement, je ne serais pas surpris qu'il renverse M. Trump aux élections présidentielles.
Madame Doumbia, Elizabeth Warren, 70 ans, voit son horizon obstrué par les performances de Bernie Sanders. Dégager un bon score en Caroline du Sud sera un défi de taille pour la sénatrice progressiste du Massachusetts. Alors, elle avait des bons résultats au départ. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour remonter la pente? Est-ce que ça se jouerait au niveau des débats? Comment pourrait-elle s'y prendre pour livrer une vraie bataille, une vraie concurrence à Bernie Sanders?
Écoutez, je ne suis pas très sûre, mais je dirais aussi, est-ce que la population américaine est prête pour avoir une présidente? C'est ça la vraie question. Elle se défend très bien. Je pense qu'il y a un manque de charisme. C'est une femme très intelligente qui a des programmes très intéressants à proposer à la population. Ce samedi est très important pour elle et pour beaucoup d'entre eux, en particulier Biden, parce que s'il ne gagne rien demain, alors je pense qu'il sera hors campagne, ça sera fini pour lui. Concernant Mme Warren, il faut aussi coûte que coûte qu'elle gagne demain, parce qu'elle est quand même descendue, alors comme vous le disiez, elle était bien remontée. Je pense qu'il y a un manque de charisme et je pense aussi que l'expérience Hillary Clinton gêne toute femme candidate aujourd'hui. Je suis moi personnellement très intéressée par sa campagne parce qu'elle a de bonnes idées.
Alors justement, Madame Doumbia, à ce propos, quelle est la vraie représentation des femmes en politique aux États-Unis? Alors on sait qu'il y a de plus en plus de candidatures, mais elles sont 95 sur 435 sièges à la Chambre des représentants, 23 sénateurs sur 100, 9 femmes gouverneurs sur 50. Bon, on sait que les démocrates se débrouillent plutôt bien parce qu'on avait 42% des démocrates qui étaient en lice pour un siège à la Chambre des représentants et seulement 12% des femmes républicaines. Donc la dernière fois, mais on reste tout de même très loin des chiffres de l'Espagne ou du Rwanda.
Absolument. Les États-Unis se placent en 75e position sur 193 pays. Le Rwanda est numéro 1. Après, on a Cuba. Après, on a la Bolivie. Donc, ça nous donne à réfléchir.
Effectivement.
Malgré les bons résultats, et je pense en fait que nous devrions remercier le président Donald Trump, et parce que c'est après son élection que les femmes aux États-Unis se sont décidées à entrer en politique et à se battre, surtout dans le parti démocrate. pour pouvoir faire entendre leur voix, parce que nous avions un risque de perdre certains de nos droits, un risque réel. Et donc, ce qui a permis cette entrée de jeunes dames au House en particulier. Mais il nous faut beaucoup plus encore. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'avoir des femmes juste pour avoir des femmes. Mais nous avons des femmes parce que si nous ne sommes pas assises à la table de discussion, nous ne pouvons pas défendre nos droits.
Merci beaucoup, Khadidia Viviane Doumbia. On arrive au terme de notre émission. Un grand merci à vous également. Merci beaucoup à Joseph Fa, à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. C'était Nathalie Barge avec vous pour L'Amérique et vous. Restez avec nous à l'écoute de VOAfrique pour la suite de nos programmes.